Vendredi Théâtre sur Divergence FM, sur Divergence FM, oui, le 93.9. Et, écoute, Florent, j'ai un petit peu le trac, ça fait quand même un petit peu longtemps, mais ça me fait très plaisir d'être là. Comment vas-tu, Florent ?
Ah, moi, ça va très bien. Tous les vendredis, ça va très bien, puisque nous parlons de théâtre sur Divergence FM.
Et oui, l'inébranlable Florent, si je puis me permettre. Christopher, le fringant Christopher, est également avec nous.
Je suis bien au courant. Bonjour, Yves.
Et écoute l'émission. Hein.
Et l'inénarrable Tito, eh bien, comme d'habitude, on l'attend un petit peu, mais ne disons rien.
Il devrait arriver.
Alors, Yves Cusset et Sarah Gabillon, bonjour.
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 Alors, vous êtes venus aujourd'hui dans cette émission pour nous parler donc de votre spectacle que vous jouez en ce moment à Pierre Tabar qui s'appelle « La philosophie enseignée à ma chouette ». Alors, Yves Cusset, vous êtes l'auteur d'un livre qui est paru en 2008, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, c'est ça, exactement.
Au titre éponyme.
De « La philosophie enseignée à ma chouette ».
Alors, peut-être qu'on va commencer, avant de parler du spectacle, peut-être parler du livre et de vous, peut-être aussi votre parcours, parce que vous êtes agrégé de philosophie quand même.
Oh là 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 là. Et pire encore, je suis même normalien, je profite quand même d'être à la radio pour le préciser. Hein, c'est important.
Oui, n'est-ce pas, faut en profiter, un titre comme ça, voilà, il faut l'afficher un peu partout.
Normalien, agrégé, docteur, s'il vous plaît, j'exige un tant soit peu de respect.
Ah oui, monsieur.
Et de déférence.
Monsieur Yves Cusset.
Voilà.
Entendu.
Merci.
Alors, le respect, on a un petit peu de mal à Divergence. Hein.
Bon, alors la déférence, ça m'ira très bien.
Alors, ce livre que vous avez publié en 2008, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'il est venu, ce livre, si je peux me permettre ?
Il est venu, en fait, d'un festival que j'organisais en Bourgogne qui s'appelait La philo en folie. Il s'agissait de proposer des petites formes philosophiques, des pièces de théâtre, des formes cabaret, des interventions qui présentent la philosophie autrement, de manière décalée, divergente.
Ah, et parfait, parfait. Oui.
Et forcément.
Le 93.9.
Et donc j'avais décidé de donner rendez-vous aux spectateurs tous les soirs pendant une semaine et je venais avec un concept que je traitais de manière humoristique et décalée. Et du coup, c'est devenu, j'en ai fait quelques-uns comme ça, et je me suis dit, tiens, je vais en faire un abécédaire complet, avec un concept pour chaque lettre de l'alphabet, et je vais faire des sortes de sketchs d'humour philosophique. Donc c'est d'abord un ouvrage, mais c'est fait aussi pour être dit, pour être entendu, mais ce n'était pas une pièce de théâtre, donc j'en ai quand même écrit ensuite une adaptation pour le théâtre, avec des vrais personnages. Vous avez vu, il y a deux personnages assez marqués, avec un fil directeur avec une évolution, une dramatisation qu'il n'y a pas dans l'ouvrage original.
Et c'est cette pièce, donc, c'est aussi des extraits de votre ouvrage. Donc vous prenez certains concepts dont vous avez parlé dans votre livre et vous les mettez donc en scène.
Absolument, c'est le principe, mais présenté sous la forme d'une université populaire, en fait, ça s'appelle, je suis désolé, l'UMP.
L'université modérément populaire.
Voilà, l'université modérément populaire, enfin en tout cas moins populaire que celle de...
Michel Onfray.
Voilà. Et donc on essaie, en tant que membre fondateur et turiféraire de cette UMP, on essaie de présenter, de proposer au public un certain nombre de concepts. Marie-Janine, donc ma collaboratrice, et moi-même, François-Xavier. Voilà. Alors Marie-Janine, c'est la chouette, hein. C'est elle.
Mais justement, oui, donc on vient d'entendre Sarah Gabillon qui est donc la chouette. Mais la chouette, c'est pas innocent comme animal. Ce choix d'animal, d'où est-ce qu'il vient ? Quelle est la symbolique derrière ? Sarah Gabillon, si vous voulez dire un mot, n'hésitez pas.
Bah, moi, pris tel quel, quand je ne connais pas la philosophie, je vois un petit animal avec des yeux grands ouverts qui regarde la nuit sans rien faire et puis d'un coup se jette sur sa petite proie et la mange goulûment et puis après repart. Et puis elle est très très belle et puis observatrice, instinctive, spontanée.
Très candide.
Voilà. Candide, oui.
Moi j'avais une question à ce sujet, puisque en général la chouette c'est un peu le symbole de la sagesse. On retrouve ce symbole qui se poursuit plus tard dans l'art, hein, dans les vanités par exemple. La sagesse, l'animal qui voit dans la nuit, souvent la chouette. Et en même temps, La Chouette dans votre pièce a un côté enfantin, alors qu'on oppose souvent la sagesse des vieux sages, et là c'est incarné de manière enfantine. Quel lien faites-vous entre sagesse et enfance, naïveté comme ça, et la philosophie?
Effectivement, c'est ce qui m'a intéressé dans le symbole de la chouette. Je trouve ça étonnant de choisir un animal qui a quand même à la base un air assez ahuri. avec voilà, ses petits yeux. On fait le symbole de la sagesse parce que c'est surtout la métaphorique, c'est la vision dans la nuit, c'est être capable de transpercer l'obscurité du monde et d'éclairer un peu par les concepts, par les idées, le monde sensible. C'est très platonicien, le modèle de la chouette. Mais il y a aussi, justement, on oublie ce côté ahuri, enfantin, et moi, ce qui me plaît, c'est cette idée-là. C'est qu'au fond, au départ de la sagesse philosophique, il n'y a rien de très sérieux. Il y a le côté, on est un peu ahuri, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on est étonné, on est tous candides, on est natif, quoi. Naïf au sens de natif. On arrive au monde, on n'est pas armé pour le comprendre, et on se débrouille avec notre côté maladroit, candide et enfantin. Et ben, moi, on ne peut pas séparer, je crois, la sagesse et ce point de départ. Pour moi, les deux vont ensemble. Je veux rompre avec cette figure de la sagesse austère, de celui qui est arrivé au-delà du désir, qui a laissé son désir derrière lui, l'ascète, qui vit du rapport direct et intérieur à la vérité.
Et d'ailleurs, vous, excusez-moi de vous couper, mais vous parlez du philosophe dans la pièce, et vous en faites une belle satire.
Oui, je joue avec l'image caricaturale du philosophe. Alors, c'est pas forcément mon image, mais c'est une image populaire qui existe depuis l'Antiquité. Voilà, avec ce philosophe-là. Alors, j'ai modernisé la figure de Thalès. Vous savez, Thalès, il était tombé dans un trou. Alors, il avait suscité la moquerie de sa servante Thrace. C'est à la fois le début de la philosophie et de la lutte des classes. Hein. Il y a la petite servante qui rigole pendant que celui qui sait, le sachant, lui tombe de sa chair, quoi, et tombe dans un trou. Alors, je l'ai modernisé en faisant un philosophe urbain qui, lui, glisse sur les déjections canines, parce qu'il il revient sur lui-même, hein, c'est le principe de la pensée, sans regarder dans son rétroviseur. Hein, du coup, voilà, il glisse sur les crottes de chien et suscite aussi la moquerie de ses congénères.
Ce qui est très pratique aussi, c'est que ce philosophe, il marche lentement, alors si on le croise dans la rue, on peut aussi courir très vite.
Oui, absolument. Il n'est pas pressé, il n'est jamais pressé, et donc il est très facile de lui échapper.
J'ai un peu peur de m'aventurer sur
vous. Ah,
Tito nous a rejoint dans le studio.
Peut-être parce qu'il a de gros moyens financiers, comme Bernard-Henri Lévy ou Onfray.
Oui, alors ça, c'est des philosophes. Non, comme je dis... Ça, je différencie ces figures-là, puisque je dis dans la pièce, le philosophe n'est plus un parasite. Hein. Aujourd'hui, il préfère se bourrer la gueule au café de Flore ou devenir ministre de l'Éducation nationale. Vous voyez, donc c'est un peu plus classe.
Est-ce que ce n'est pas vraiment un parasite?
Oui.
Voilà.
Voilà.
On ne va pas avoir des parasites sur l'antenne. Hein.
Non, on ne va pas. Voilà. Laissons les parasites de côté.
Mais en tout cas, donc il y a cette fraîcheur, cette naïveté, mais il n'en reste pas moins que les thèmes que vous abordez sont des thèmes qui sont les thèmes purs, enfin pas purs, mais qui sont propres à la philosophie. Donc on va parler du temps, en particulier plutôt vers la fin du spectacle.
Oui.
Ce sont des thèmes qui sont entre guillemets sérieux, mais que vous ne traitez pas du tout de cette manière-là.
Ah, sur le temps quand même, c'est assez grave. Hein.
Oui.
C'est peut-être le seul passage de la pièce qui est vraiment dans le ton.
Oui.
Assez grave. Et justement, parce que c'est une logique que je reproduis assez régulièrement dans mes spectacles, je vous ai entendu parler de vanité, et c'est un peu ça, c'est-à-dire finalement, moi j'adore l'humour, c'est s'amuser avec notre condition, avec la petitesse de notre condition, donc on s'amuse, on rit plutôt que de s'affliger, on essaie de jouer ensemble, d'être des enfants, et puis tout d'un coup, paf, mince, on n'a pas fait attention. Et il y a l'horloge qui est là, et le gong sonne, et le temps est passé. Et là, tout d'un coup, malgré nous, la gravité nous tombe sur le coin de la gueule. Et on n'a rien demandé. Et hop, elle est là. Et donc, il y a ce côté-là dans la pièce. On rigole pas mal, le public rigole pas mal, on s'amuse. Et puis, on s'amuse et tout d'un coup, paf, le temps nous tombe dessus. Vraiment, comme un coup près. Hein. Mais il ne faut pas révéler, zut, j'aurais pas dû dire tout ça. Il faut couper.
Mais c'est toujours agréable d'avoir des petits morceaux comme ça de la pièce qui ressortent au fil de l'interview. Alors, donc, il y a aussi Dieu est là.
Ah oui.
Peste diantre.
Grande question.
Oui. Enfin, en tout cas, la chouette essaye de savoir s'il peut prouver son existence.
Oui. Et elle s'adresse directement à lui.
À lui, ouais.
Dieu, est-ce que tu existes ?
Oui.
Oui, et tu as intérêt à me dire oui, parce que ce n'est pas possible autrement.
De toute façon, c'est Baudelaire, je crois, qui disait « Dieu est le seul être qui, pour régner, n'est même pas besoin d'exister.
Ouais, » Oui, ben c'est ce qu'il dit aussi là. Qu'est-ce que ça peut me foutre à moi d'exister ou non ? Répond-il à la chouette. Évidemment, la chouette a tous les arguments pour démontrer son existence. Elle lui adresse, elle dit « Tu peux pas, attends, tu vas voir, je peux démontrer ton existence. » Et Dieu répond « Ils sont pas valables tes arguments, ma vieille. Non, ça tient pas debout ton truc. » Alors voilà, c'est assez étrange cette situation.
Et c'est là où la philosophie peut faire aussi peur, parce que finalement on se pose des questions, vous commencez aussi par là, la question « Comment ? Pourquoi ?» Et finalement, ce sont des questions qu'on pose, mais on apporte des réponses, mais finalement, ça ne change rien de répondre à ces questions.
Ça change, si. Y a un principe. En philosophie, c'est sûr, la question survit toujours à la réponse. Mm-hmm. C'est un des principes de la philosophie. Mais ça ne veut pas dire qu'on revient toujours au point de départ. Y a l'amour du questionnement dans la philosophie et de pouvoir enrichir la question, de pouvoir la faire grossir, de lui donner toute son amplitude. C'est la base de la réflexion, c'est la base de la construction d'un espace intérieur. Mmh. C'est loin d'être vain, enfin, de ce point de vue-là. Moi, je trouve ça assez précieux. Mais oui, il faut accepter, c'est pas un art de la consolation, la philosophie. Mmh. C'est pas un art du réconfort. Donc voilà, pour ça, il y a la religion ou le chocolat.
Nous, on préfère le chocolat.
Christopher, tu voulais intervenir ?
Oui, dans votre spectacle, je trouve positif de voir que bon, j'avais beaucoup de mal à imaginer des philosophes rire. Moi, quand j'étais au lycée, j'avais du mal à les imaginer se faire des blagues, quoi. Et là, vous présentez un spectacle sur la philosophie plein d'humour. Et j'ai l'impression que vous attachez une grande importance au rire en philosophant.
Ah oui, ça c'est sûr.
J'ai presque l'impression qu'il y a une sorte d'obsession du rire, enfin d'une réflexion en tout cas là-dessus.
Oui, il y a une réflexion là-dessus, ouais, bah, je suis en train d'écrire dessus, donc un ouvrage qui forcément sera pas très drôle, c'est ça le problème. c'est ce qui m'emmerde, je dis, c'est quand même, pourquoi faire une théorie de l'humour quand on le pratique, voilà. Mais quand même, oui, je veux éclaircir ces points-là. Et pour moi, le rire, c'est pas toujours, hein. Mais c'est une possibilité de penser, c'est une forme de pensée, et ça a deux avantages, le rire. C'est une pensée du corps, ça passe par les spasmes du corps, mais pourtant c'est le corps qui s'exprime d'abord, c'est un relâchement, c'est une décharge d'adrénaline, le rire, mais dans cette décharge, il y a une compréhension. C'est-à-dire, ce qui nous fait plaisir quand on rit, c'est qu'on comprend quelque chose, mais on comprend par le corps, par l'intuition. Donc il y a la preuve, à travers le rire, que la pensée, c'est pas forcément que de la réflexion et de l'argumentation. Ça peut être quelque chose de spontané, d'intuitif, et néanmoins de compréhensif, et surtout de commun. Hein, le rire, c'est quand même le partage de l'allégresse. Et ça, c'est précieux de pouvoir se dire quand on n'est pas tout seul. Le rire, ça nous relie, ça nous rassemble, et ça nous protège face à la fragilité de notre condition. C'est pas un déni de notre petitesse, c'est une acceptation commune de notre petitesse. Ensemble, on rit, ensemble, ça nous relie, on dit « mais ça va, oui, on n'est rien, mais le fait qu'on en rit ensemble et qu'on le sache tous ensemble, ah bah, ça va tout de suite mieux. »
Il y a un autre passage aussi que j'ai beaucoup apprécié, hein, dans la pièce, c'est qu'on vous disait que l'homme rit, mais l'homme rit tout le temps de lui-même finalement. Je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve chez Bergson. Mais alors là, j'ai vraiment peur de m'aventurer sur votre sujet.
S'aventurer dans Bergson comme ça, sans son autorisation express. Après, il faudra faire une émission. Il nous reste combien de temps là?
Un quart d'heure environ, mais on va.
Parce qu'il va y avoir une coupure. Donc, moi, si je me lance dans un exposé philosophique sur les différentes formes du rire, d'abord, on va perdre un certain nombre d'auditeurs.
Non.
Et ensuite, on va prendre trop de temps. Et il y a Sarah qui va pas pouvoir parler, qui va encore dire en sortant: mais Yves, bordel, il y a que toi qui parles.
Mais non, c'est pas vrai.
Non, tu vas pas.
Moi, j'aime bien écouter.
Alors, là, vous avez fait quelque chose qui est commun à l'humour japonais et anglais, c'est-à-dire d'abord, on se moque de soi-même, et après, on peut rire de tout.
Oui, c'est ça. Non, mais pour moi, oui, l'humour, c'est quelque chose qui passe par soi-même d'abord. Et c'est pas... rire de tout, ça n'a pas de sens pour moi. Tout, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose en particulier dont on rit et qu'on formule d'une certaine manière pour que ce soit humoristique. Y a pas, ça veut rien dire, cette question, peut-on rire de tout ? Ce qui compte, c'est la manière, c'est l'intention. La même blague juive dite par Woody Allen ou par Dieudonné, avec rigoureusement le même contenu, n'aura pas du tout le même sens ni la même drôlerie. Et donc, moi, si je l'entends dans la bouche de Dieudonné, bah, je rirais pas. Enfin, je considérais que c'est d'une blague antisémite. Alors que si Woody Allen, si c'est Woody Allen, je considérais que c'est une blague juive, donc forcément antisémite, puisque tous les juifs sont antisémites, hein, par respect d'eux-mêmes. Mais voilà, je considérais que ça passe d'abord par lui-même, et ça va. Le rire qui sépare, le rire qui sépare les hommes les uns des autres, qui dit « moi, je suis à telle position, toi, tu as une autre, donc j'ai le droit de me moquer de toi », ce rire-là est un rire de paranoïa. Et donc, ça fait du bien, mais c'est un rire hystérique et qui n'a pas d'intérêt pour moi. C'est pas un rire qui nous relie, c'est un rire qui nous sépare et surtout nous conforte, non pas dans notre folie, dans notre douce folie, mais dans notre pathologie. Donc, Dieudonné, bah, il trouve beaucoup de gens pour être conforté dans sa pathologie. Il en trouve. Mais voilà, il trouve des paranoïaques. Et on a besoin. Hein, ça fait du bien, mais c'est pas très intéressant du point de vue humoristique. Pour moi, il n'y a pas d'humour chez lui.
Alors, on va reprendre notre souffle avec une petite pause musicale. Florent, qu'est-ce que tu as choisi ?
J'ai rien trouvé sur les chouettes et sur la chouette hier soir en regardant, mais j'ai trouvé quelque chose sur les hiboux. Il s'agit d'un poème de Charles Baudelaire chanté par Léo Ferré. Léo Ferré qui était le parrain de Divergence FM.
Ah.
Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que des dieux étrangers. Dardant leur œil rouge, ils méditent. En remuer, ils se tiendront jusqu'à leur mélancolique, où poussant le soleil oblique, les ténèbres s'étendent.
Divergence FM, c'est Léo Ferré qu'on écoutait à l'instant avec les hiboux. Alors, nous sommes donc dans l'émission Vendredi Théâtre et nous parlons toujours de la philosophie enseignée à ma chouette qui se joue au théâtre Pierre Tabar en ce moment. Et donc, nous sommes en compagnie de Yves Cusset et Sarah Gabillon. Alors, il y a une dimension importante du spectacle que vous jouez, c'est la dimension s'adresser aux élèves, aux étudiants de philosophie, enfin pas forcément aux étudiants de philosophie, mais il y avait beaucoup de scolaires en fait, pour dire ça simplement, il y avait beaucoup de scolaires lors de la représentation. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, non, cette discussion?
L'adresse directe au public, oui, c'est le théâtre que j'essaie de cultiver, qui vient d'une certaine forme du café-théâtre que j'aime assez, qui est de recréer un espace public, on va pas jouer une pièce avec le quatrième mur, le café-théâtre, à l'époque où c'était encore humoristique, il y avait le principe d'interpeller la salle, de créer du questionnement par le biais de l'humour et de dire, voilà, on recrée un espace public, on s'adresse directement au public, hop, on interpelle. Et ça, je suis très attaché à ça. Et donc, je préfère d'ailleurs largement utiliser, quand je joue tout seul, on me dit c'est du one-man show, non. Ou du stand-up, non, c'est du café-théâtre, je veux bien. Moi, j'aime bien, c'est tout à fait noble, le café-théâtre, j'aime bien ça. Et je crois qu'il y a cette dimension, dans le duo qu'on joue avec Sarah, de café-théâtre en ce sens-là, parce qu'on s'adresse aussi au public. De toute façon, c'est la forme d'une conférence, mais... ouais, il y a cette adresse qui est importante et le public peut répondre. Et même à un moment, je leur demande, puisqu'on essaie d'apprendre à jouir de l'instant, donc on leur demande, Sarah et moi-même, de jouir. Donc,
voilà. à beaucoup, on est beaucoup quand même.
Ouais. Oui, ça fait, là c'était pas mal. Quand il y a beaucoup de monde, c'est bien.
C'est un exercice périlleux quand même.
Périlleux pour qui?
Bah pour le public a un petit peu du mal au début quand même.
À jouer en
groupe. Oh, oui, c'est-à-dire qu'ils ont. C'est là qu'on voit qu'il y a une tendance à simuler quand même. quand on jouit, et c'est vrai, c'est difficile de jouir comme ça spontanément. Alors qu'à la fin, ils jouissent spontanément. Mais sans le savoir, parce qu'en fait, quand on jouit, on n'y pense pas. Sinon, d'ailleurs, on le ferait moins fort pour ne pas déranger les voisins. Mais, on n'y pense pas. Et ils jouissent à la fin quand ils tapent dans les mains. Finalement, quand ils applaudissent. Je leur dis, vous voyez, vous y arrivez.
On n'est pas obligé de verbaliser la jouissance.
Exactement, on n'est pas obligé de la verbaliser. Mais
je vais quand même mal en train d'applaudir à la fin de l'acte sexuel. Là, quand même.
Eh bien, je trouve que c'est dommage. Il faudrait le faire un peu plus.
C'est comme...
Oh oui, bravo.
C'est comme à l'atterrissage des avions, on applaudit le pilote, là c'est pareil. C'est...
Qui ne nous entend pas.
Oui, oui. Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Il ne nous entend pas.
Je ne sais pas où est l'avion, mais bon.
Mais je voulais parler plus particulièrement des lycéens qui sont présents à vos représentations et avec lesquels vous discutez après coup. Comment ça se passe?
Oh, c'est à eux que je m'adresse aussi de manière assez privilégiée. Je m'adresse à tout public, hein, mais je suis très heureux quand il y a des jeunes qui viennent. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... le théâtre, c'est assez générationnel. C'est difficile d'y amener des plus jeunes. Et moi, j'aime bien quand ils sont là. J'ai rien contre les autres, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui s'ouvre tout d'un coup. Puis c'est rassurant. C'est toujours rassurant quand il y a des jeunes. Tu dis, c'est bon, on peut... il y en a qui suivent, il y en a derrière, ça va aller. Et qui rient à ces spectacles et qui voient que la philosophie, c'est pas que complexant. Il y a un côté assez complexant quand on arrive en terminale. Maintenant, tu vas penser par toi-même, bordel. Et alors là, on est là devant sa feuille avec une... Tout d'un coup, on a une disserte de philo. L'hypothèse de l'inconscient est-elle compatible avec l'idée de liberté? Oh ! Et là, on se lance. Et je dois répondre à ça. Non, là, le rire est interdit. Et puis, on culpabilise. Il y a le... Non, ça leur fait du bien de rire. Et c'est pas simplement un rire de décharge. C'est aussi, je crois, un rire de compréhension et un autre accès à la philosophie. Donc, je suis content. Et les profs qui amènent leurs élèves, ils veulent pas tous le faire avec ce type de texte. Mais les profs qui amènent leurs élèves savent très bien que ça va pas les détourner de la philosophie, qu'ils vont pas se mettre à faire les cons en cours. Au contraire, ça va rouvrir l'étonnement et ça va... Et ils vont pas avoir du mal à récupérer l'attention des élèves. Ça, c'est une fausse idée.
Justement, moi, je pensais qu'il fallait qu'il y ait des bons profs derrière parce que ce que vous faites est vraiment contraire au concours de des grandes écoles. Il y avait pas mal de classes prépa, je disais, s'ils vont faire ça à l'examen, à mon avis, ils vont se ramasser la gueule. Et vous venez de dire, là, ça devient intéressant pour eux. Moi, je trouve que de toute façon, ce que vous faites est toujours beaucoup plus intéressant que les classes prépa en philo, parce que c'est même anti-philosophique ce qu'ils font, mais c'est pas grave. Mais c'est une opinion très personnelle.
Oui, ce qui m'a fait rire, c'est que là, justement, quand vous y étiez mercredi soir, il y a il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit « Vous m'aviez dédicacé la philosophie enseignée à ma chouette il y a quelques années en mettant « C'est pour rater ton bac du premier coup. » et il m'avait dit « Je l'avais eu et en plus, je vous avais cité dans la disserte du bac. » Et ben, j'ai eu 15. Je lui dis « Alors là, chapeau.
» Tous les correcteurs ne sont pas des imbéciles.
Alors, on voulait un petit peu vous demander un petit exercice périlleux qu'on a l'habitude de demander à Vendredi Théâtre. Ça serait de nous lire un extrait du spectacle.
Pour ça, il faudrait qu'on ait le texte. Mais...
De nous l'interpréter, excusez-moi, j'ai le trac, hein, moi aussi. Alors, est-ce que vous auriez un extrait
On va poser une question, justement. Enfin, ce que je vais faire, c'est comme c'est la chouette qui nous sert de guide, donc on va lui demander, vous allez me dire, ma petite chouette, je vais te tutoyer, hein, est-ce que tu aurais comme ça une question à me poser, comme ça qui te viendrait à l'esprit?
Comment?
Est-ce que tu aurais une question à me poser?
C'était
comment quoi?
Ma première question, c'était comment?
Comment? Quoi?
C'était comment?
Non, alors attendez, comment, c'est pas une question. Hein, c'est un pronom interrogatif.
Et pourquoi?
Pourquoi? Ah, pourquoi c'est déjà mieux, oui.
Non, pourquoi comment, c'est pas une question? Et pourquoi tout seul, si?
Hein? C'est une question?
Oui, pourquoi c'est une question? Alors que comment, non. Pourquoi pas comment?
Comment ça, pourquoi pas? Bon, reprenons-nous Marie-Janine, reprenons-nous, là, on n'y est pas du tout arrivé, je pense que on va... Non, laissons quis quomodo, cur quando, quibus auxilis, ubi et orbi, foin des chichis, demandez-moi simplement quid.
D'accord, je ne vous avais pas compris. Voici donc ma première question. Qu'est-ce que l'homme?
Vous voulez dire quid est homo?
Stomo?
Pom 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 est le seul bipède sans plumes de la nature, à l'exception du singe, qui est quadrumane. L'homme comprend deux espèces, lui-même et la femme, enfin surtout lui-même, car l'homme en tant qu'espèce embrasse toujours la femme, l'inverse n'étant pas vrai.
Tout à fait, François-Xavier, la femme n'embrasse pas l'homme.
C'est comme ça, il faut s'y faire, ça n'est pas réciproque.
Même si la femme est un bel animal à fourrure, dont la peau est particulièrement appréciée.
Et c'est pourquoi la femme est le meilleur ami de l'homme.
Juste après le chien.
L'homme est un animal tout à fait unique.
Tout à fait, François-Xavier, unique.
Hein? Non seulement parce qu'il embrasse la femme, mais surtout parce qu'il n'avait pas du tout été prévu au programme.
Ah oui !
Eh oui. Aucun bipède sans plumes n'avait été programmé dans le grand plan de prolifération terrestre du vivant.
Pouvez-vous nous en dire davantage?
Il faut se rappeler très précisément les faits. À l'origine, les dieux, du haut de l'Olympe, qui se demandaient bien comment occuper leur journée, hein, sachant que leur vie est éternelle...
Tout à fait, François-Xavier. Cela pose un vrai problème d'emploi du temps, la vie éternelle.
Décidèrent de créer des êtres mortels dont ils s'amuseraient à façonner le destin. Ils prirent donc de la pâte à modeler et façonnèrent dans un immense tohu-bohu...
Tout à fait, François-Xavier, tohu-bohu.
Tout un tas d'espèces vivantes différentes qui pourraient allègrement se bouffer entre elles tandis qu'ils regarderaient les Jeux Olympiques en direct à la télévision. Mais les dieux se lassent très vite de leurs activités.
Tout à fait, François-Xavier, c'est pire que les gosses de riches.
Ils décidèrent donc de confier à des dieux de seconde zone, hein, nommés les titans, le soin de pourvoir les espèces animales des accessoires et des qualités leur permettant ensuite d'assurer leur perpétuation.
Tout à fait, François-Xavier, un vrai travail de titan.
Ils confièrent donc à Épiméthée le soin d'assurer, pour ainsi dire, la première couche, hein, et à Prométhée, le second titan, le soin d'effectuer les éventuelles rectifications.
Et c'est pour ça que Zeus a dit « Mettez une première couche, s'il vous plaît ». Et puis mettez une seconde si nécessaire.
Et promettez-moi que le travail soit bien fait. Et puis mettez cette-là à la tâche avec enthousiasme. Il dota certains animaux de force, d'autres de vitesse, donna à certains des armes de défense ou à d'autres de petite taille des ailes pour fuir ou un refuge souterrain. Mais l'imprévoyant avait utilisé tout le stock des accessoires et qualités disponibles alors même qu'il restait encore une espèce à pourvoir. Laquelle,
poulpe.
Je vous prie. Non, pas le poulpe.
La salamandre?
Non.
Le ver de terre?
Non.
La mouche à merde?
Presque.
L'armoire normande.
Non, le cochon d'Inde.
Ah, tout à fait, François-Xavier.
Mais non, je plaisante. L'homme.
Vous êtes sûr? Ah oui, je suis bête.
Tout à fait, Marie-Jeannine.
Et Prométhée n'y a vu que du feu.
Non, mais vous saurez la suite au prochain épisode.
Merci beaucoup Sarah Gabillon et Yves Cusset. C'est donc La philosophie enseignée à ma chouette. Ça se joue en ce moment au théâtre Pierre Tabar. Et pour les représentations, donc, on peut en voir une ce soir à 20h45, une demain samedi à 19h30 et dimanche à 17h30. Florent, qu'est-ce que tu nous prévois comme entremets musical?
Avant de se séparer, on va remercier donc nos invités de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau de Vendredi Théâtre. Et je pense que le temps, c'est quand même un concept qui est exploré dans la philosophie. Donc j'ai choisi Jacques Brel, La valse a mis le temps. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Seul aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Frosse nos amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Face aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Ta voix, tes yeux, tes mains, tes lèvres. 93.9 nos silences, nos paroles.
Divergence FM.
Vendredi théâtre sur Divergence FM et nous attaquons pour cette émission le deuxième plateau où nous allons parler de L'étranger d'Albert Camus. Mais d'abord, permettez-moi de dire bonjour à Grazia, notre chroniqueuse, notre belle Grazia qui vient de nous rejoindre dans le studio.
Bonjour.
Bonjour Grazia, excuse-moi, je tends le micro parce qu'on est un petit peu nombreux. Et maintenant, je vais bien sûr souhaiter la bienvenue à Avner Pérez. Bonjour, le directeur du Carré Rondelet, parce que l'adaptation d'Albert Camus se joue au Carré Rondelet et c'est donc Avner Pérez, vous, qui assurez la mise en scène. Et je vais aussi souhaiter la bienvenue aux comédiens, donc Pierre-Jean Peters.
Oui, bonjour.
Alors je prononce ça avec un petit accent anglais, je ne sais pas d'où ça venait.
Non, c'est ça, c'est exactement le bon accent qu'il faut.
Merci. Et Clara Del Campo, bonjour.
Bonjour.
Alors donc, L'étranger de Camus, c'est un gros morceau, l'air de rien. Mais c'est aussi quelque chose que vous avez, en tant que comédien, beaucoup pratiqué.
C'est-à-dire que, en fait, le projet de L'étranger, de l'adaptation qu'Avner Pérez a faite, en fait, c'est la matrice, en fait. Parce que, dans votre question, évidemment, il y a tout le cheminement que moi je fais avec Camus depuis maintenant presque 10 ans. Mais en fait, c'est parti aussi d'un point initial. C'était le point de... J'allais dire, dans mon cas, c'est un peu un point de non-retour parce que je suis toujours avec Camus tout le temps. Il m'habite et pas seulement que lui, mais c'est un cheminement affectif avec lui. Mais c'est parti d'abord d'une amitié avec Avner et ensuite d'un intérêt commun à travailler sur cet auteur et surtout en particulier sur L'étranger parce que ça nous transportait tous les deux pour des raisons diverses. Voilà.
D'accord. Donc, ça se joue en ce moment au Carré Rondelet. Quelle était l'optique pour vous derrière d'intégrer cette pièce que vous avez mise en scène ?
Oui, alors, je voudrais dire, moi je suis là au titre plutôt de metteur en scène,
bien sûr,
directeur du théâtre. Mais on pourra dire deux mots sur nos futures programmations.
Oui.
Voilà. Oui, en effet, c'est une aventure, effectivement, commune là, avec Pierre-Jean et aussi avec Clara depuis un bon moment, hein, déjà, puisque la première création, ça a été il y a plus de 7 ans, 7-8 ans. Et ensuite, ça a pris diverses formes. Il y avait des choses qu'on a remaniées, qu'on a repaufinées. Et puis là, on se retrouve avec cette version et avec cette impossibilité, au fond, de ne pas continuer cette aventure et cette fidélité aussi avec Pierre-Jean, puisque maintenant, ça dure, je viens de le dire, depuis plus de 8 ans. Alors, je ne sais plus ce que vous m'aviez demandé.
du coup, la mise en scène elle-même, donc la pièce a pris diverses formes. Alors, on est dans une mise en scène plus intimiste.
Oui, disons que ça s'est resserré, effectivement, sur le plan de la scénographie, sur le plan même du texte, hein, où on a essayé de faire une version maintenant à peu près à 1h20, 1h15, 1h20. C'était beaucoup plus long, en effet. Et puis, dans le décor lui-même, hein, on a essayé de resserrer les choses, de faire quelque chose de plus en plus sobre. Mmh. Ce qui correspond, disons, aussi à cette pureté du texte et à cette sobriété aussi du texte lui-même.
Oui, tout à fait. Le style d'Albert Camus, c'est quelque chose dont il faut parler, je pense. C'est ce style très succinct, avec des phrases vraiment au plus simple, avec du sujet, verbe, complément et un point, et on passe à l'autre phrase. Et il y a ce côté un petit peu fait après fait, c'est le côté journaliste de Camus.
Absolument, absolument. Il s'agit d'un récit, hein, à la première personne, et au fond, ce sont presque, oui, des sortes d'annotations de journalistes, jour après jour, fait après fait, encore que, on l'a constaté, hein, quand on a travaillé sur l'adaptation, la chronologie n'est pas tout à fait là. Il y a des choses très curieuses, très bizarres dans le texte, où on se retrouve à l'enterrement, mais on revient d'une certaine façon à des séquences antérieures. On prend le tram, mais en fait, on l'a déjà pris avant, etc. Donc, il y a quelque chose certainement de volontaire, hein, chez Camus, d'essayer peut-être de brouiller un peu les pistes, oui.
Il y a aussi cette sobriété qui rend peut-être, qui donne une certaine froideur au personnage de Meursault.
C'est-à-dire, oui, il y a une sobriété, mais il y a aussi en même temps, j'allais dire, une transparence, parce que... Une froideur, je ne sais pas, j'allais dire plutôt... je ne sais pas si on peut parler de froideur. Une distance, j'allais dire, certes, qui est en fait qui est d'abord due à la posture, j'allais dire, grammaticale, hein, telle que le roman a été conçu par Camus, c'est-à-dire la première personne, et en fait, il est l'observateur complet, du début jusqu'à la fin. Donc, effectivement, on peut pas éviter de penser à ça, même si après, quand on se plonge véritablement dans le travail et puis dans la pensée de l'auteur... il n'est pas un personnage aussi neutre qu'on voudrait le voir, quoi.
Mais Monsieur Meursault aussi, c'est celui qui se fait en quelque sorte écraser par, j'allais dire les éléments, mais c'est peut-être écrasé par ce qui l'entoure, finalement. Il y a ce voisin, il y a le décès de sa mère, c'est quelqu'un qui se fait accabler par l'extérieur.
Écrasé, accablé, enfin, en tout cas, moi, je ne pense pas. Je pense que véritablement, le héros, il est... Il est propulsé au quotidien, comme dans le quotidien un peu, d'à peu près toutes les personnes normales de la société dans laquelle il habite. C'est-à-dire que bon, voilà, il se lève le matin, il fume des cigarettes, il se languit pas forcément d'aller travailler, mais il faut qu'il y aille. Il a une existence très commune, très quotidienne.
Mais il n'aime pas les dimanches aussi.
Il n'aime pas les dimanches, il s'ennuie, il fume et il aime passionnément la vie aussi. C'est-à-dire que c'est quoi la vie? C'est les plaisirs de la chair, les plaisirs de la vie. On n'en voit pas, faut absolument pas voir un personnage. Justement, les événements ne l'écrasent pas, au contraire. Je crois qu'il les accepte. Donc il les accepte de manière très très volontaire. Je ne sais pas si Avner, tu es d'accord avec moi là-dessus. Mais il les accepte et tout ce qui arrive devant lui est une acceptation de sa propre volonté de ne pas y penser. Et d'ailleurs, c'est parmi les étrangetés de Camus, c'est... alors il y a ce jour, ce mot, je n'y avais pas pensé, ou je... Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais bon...
Je comprends mon patron,
tout ça, je comprends que... Mais il ne réagit pas de manière psychologique. C'est-à-dire que c'est absolument pas un roman psychologique. C'est plutôt un roman absurde, mais si on veut parler de l'attachement de Camus à Kafka, par exemple, mais là, pour le conte, il ne s'agit pas d'un roman psychologique, c'est simplement le héros qui observe.
Florent, est-ce que tu voulais dire quelque chose?
Non, je voulais dire, moi, je vous avais vu dans d'autres mises en scène pour ce même texte. Je crois qu'il y avait eu Monique Grégo qui vous avait mis en scène, il y avait eu Yves Gourmelon. Et moi, ça me semblait intéressant de voir que l'acteur, avec le même texte, travaillait avec plusieurs metteurs en scène. Est-ce que c'est différent à chaque fois? Est-ce que c'est...
Oui, j'ai envie de dire oui, parce que c'est bien sûr, c'est différent. C'est différent. La réponse, elle est simple. Hein. Je veux dire, on a tous, par rapport à une œuvre, un regard. Et surtout, les metteurs en scène, quand ils doivent faire du théâtre. Donc, on a tous un regard différent. On a tous une vision différente en tant que metteur en scène. Et ensuite en tant que celui qui aime Camus, enfin, qui s'attache à l'œuvre. Donc, effectivement, elle est différente. Donc, elle se traduit de manière différente sur le plateau.
Donc, voilà. Grazia voulait dire quelque chose, je crois.
Oui, il y a eu aussi un film fait par Visconti dans les années... après la mort de Camus.
Parce 1967.
Camus, 1967, oui. Voilà. Hein, interprété par le grand Marcello. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que...
Il l'a renié, hein, lui-même, sérieusement. Hein,
oui, parce que c'était pas une réussite. Hein.
C'était pas une réussite, oui.
Mais c'est vrai que c'est la seule adaptation cinématographique.
Ouais. Pour l'instant,
oui.
J'ai entendu dire que quelque chose se préparait.
Ah oui, d'accord. Oui, je voulais donc parler un petit peu justement de l'espace. Il me semble que les éléments, comme disait Yves tout à l'heure, c'est-à-dire le soleil, la chaleur, la lumière, sont vraiment presque des personnages dans la pièce. Hein. Et en fait, lui, il agit parce que soit il ne les supporte pas, ces trois éléments, soit parce qu'il s'y noie dedans. Il est presque, pas un moment accablé, il faut le dire. Il n'arrive pas à avancer, il faut Je parle des éléments, simplement, de ces trois éléments. S'il tue à la fin, c'est parce qu'il ne supporte plus la chaleur. Donc, c'est tout de même impressionnant. Et vous l'avez très bien rendu avec ces drapeaux, ces drapés. Oui. Des fois, les mots français m'échappent. Ces drapés qui expriment effectivement cette c'est presque voluptueux. C'est de la façon dont il se drape dans le drapé pour dire qu'il fait chaud, que voilà, qu'il aime ça. Et après, le drapé rouge qui, à mon sens, représente le sang qu'il vient de verser. Donc, je ne sais pas si c'était votre intention ou pas.
Oui, oui, on peut voir ce contraste-là, oui. Mais c'est vrai que, bon, il y a une centralité de ce drapé dont on parlait, parce que il est là, effectivement, pour signifier cette chaleur, signifier Alger. Donc, si vous voulez, bon, il y a deux choix importants. Vous savez, on vient de parler, là, des différentes versions que je n'ai pas toutes vues moi-même, hein, qu'avait interprété donc Pierre-Jean avec d'autres metteurs en scène. Moi, si vous voulez, et on a quelque chose de commun, Pierre-Jean et moi, c'est cette connaissance profonde du Maghreb et des couleurs et des sons, hein, du Maghreb. Bon, moi, j'y suis né, comme vous le savez. Hein. Pierre-Jean par... par ses héritages biologiques et culturels, il est aussi de plein pied avec cette réalité d'Algérie, du Maghreb en général. Et donc, effectivement, la lumière ne pouvait être que centrale, si vous voulez, parce que même, enfin, il le donne comme alibi, en quelque sorte, pendant le procès. Hein. Alors, on ne sait pas, à la limite, je crois qu'il dit la vérité, hein, quand il dit « c'est à cause du soleil hein, ». Il est dans sa vérité, il est dans cette vérité, au fond, de cette lumière qui le traverse, qui le pénètre, et qui est, en somme... quelque chose qu'il porte et qu'il veut absolument, garder, hein, parce que ça lui appartient en définitive aussi. Et c'est pourquoi, bon, on a privilégié et la lumière et le son, puisqu'on a le son, on a le muezzin, on a aussi la présence de Marie et de la plage, parce que la plage est essentielle à la fois pour Camus et pour ce personnage, puisqu'au fond... Le véritable noyau du crime, au fond, réside dans le fait qu'ils étaient en divertissement, disons, sur la plage. Et c'est le point de l'accusation au tribunal.
Alors, on va continuer de parler d'Albert Camus. Donc, après une petite pause musicale, Florent, qu'est-ce que tu nous as choisi ?
Alors, j'ai voulu faire plaisir à M. Avener, puisqu'il sera question du Portugal, donc au mois d'avril, au Carré Rondelet. Donc, j'ai choisi un concerto de Mozart, le concerto pour piano numéro 9, Jeune homme, avec la grande Maria João Pires au piano. Et c'est avec l'orchestre de chambre de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne.
du bien. Et donc nous sommes toujours à Vendredi Théâtre, sur Vendredi Théâtre, dans Vendredi Théâtre. Vous choisissez la préposition de votre choix et nous parlons donc de Albert Camus et de L'étranger. Alors Clara Del Campo, dans cette pièce, vous interprétez une, j'allais dire, alors peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais une sorte d'ombre comme ça qui est là et qui est derrière, toujours dans cette distance. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez nous le dire un petit peu?
Alors d'abord, je suis d'une part sur scène en tant que violoniste, donc j'accompagne avec le violon toutes les ambiances que Pierre-Jean il interprète à travers ses personnages. Et à un moment donné, j'incarne Marie. Donc c'est un peu le double rôle des violonistes neutres derrière qui fait la musique. Et puis Marie qui prend, prend place de temps en temps pour avoir quelques moments avec Meursault.
Et Marie, c'est du coup, de ce biais, Marie devient une sorte de présence qui est là et qui aussi, comment dire, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est ce qui a été reproché à M. Meursault pendant le procès, c'est le fait qu'il se divertissait après l'enterrement de sa maman, et vous êtes cette présence-là, en fait, ce divertissement.
C'est cela. On part à la plage et en fait, sa maman, elle vient d'être décédée. Et puis elle est juste dans la rencontre avec lui, et puis dans la naïveté, la fraîcheur, voilà. Elle est amoureuse. Donc à partir de là, c'est vrai qu'après, ça devient un peu plus tragique quand elle se rend compte qu'en fait, elle a pas des prises sur cet homme qui, bon, elle n'arrête pas de lui demander « Est-ce que tu veux qu'on se marie? Est-ce que tu m'aimes ?» Elle lui dit « Bah, je sais pas, ça m'est égal, cela ne signifie rien, mais on peut se marier si tu le souhaites. » Et voilà, elle est un peu cette pointe des fraîcheurs dans sa vie à lui, mais en fait, sans prise possible.
Est-ce que vous pourriez nous interpréter un petit extrait de cet étranger, d'Albert Camus?
Volontiers. Alors, je vais vous prendre, évidemment, je ne peux pas éviter pour les auditeurs de vous lire le début. Évidemment. Et ensuite, peut-être un autre petit moment, mais surtout qui a un rapport avec sa mère et l'enterrement. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Maringo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. Un deuxième extrait donc, qui se passe pendant l'enterrement. Il me semblait que le convoi marchait un peu plus vite. Autour de moi, c'était toujours la même campagne lumineuse, gorgée de soleil. L'éclat du ciel était insoutenable. À un moment donné, nous sommes passés par une partie de la route qui avait été récemment refaite. Le soleil avait fait éclater le goudron, les pieds y enfoncés et laissé ouverte sa pulpe brillante. Pérez m'a paru très loin, perdu dans une nuée de chaleur, puis je ne l'ai plus aperçu. Mais je l'ai cherché du regard et j'ai vu qu'il avait quitté la route et pris à travers champs. J'ai constaté aussi que devant moi, la route tournait. J'ai compris que Pérez, qui connaissait le pays, coupait au plus court pour nous rattraper. Au tournant, il nous avait rejoints. Puis nous l'avons perdu. Moi, je sentais le sang qui me battait aux tempes.
Merci Pierre-Jean Peters pour cet extrait, donc au début de L'étranger d'Albert Camus. Alors on va rappeler que ce spectacle se joue donc au Carré Rondelet en ce moment, vendredi, ce soir. Ah, est-ce que un petit... J'ai vu un petit signe.
Vas-y.
Ah, je sais pas, ah, non, bon... Est-ce que Clara Del Campo voulait jouer un petit peu de musique?
On a vu qu'il y avait un violon, donc ça serait bien d'avoir un petit peu de violon.
Ah. C'est un morceau du spectacle. Hein.
une petite ambiance.
Merci pour ce cadeau.
Merci Clara Del Campo. Merci Pierre-Jean Peters.
Merci.
Et merci Avner Pérez.
Je tiens à préciser que la prochaine fois qu'on recevra M. Pérez, ça sera en tant que directeur pour venir nous parler de la deuxième partie de la saison du Carré Rondelet, hein, parce que c'est un théâtre qu'on aime bien.
Merci. Oui, en effet, je reviendrai volontiers, comme toujours, avec grand plaisir ici.
Début du mois de mars.
Tu voulais dire quelque chose, Grazia ?
Oui, mais ça n'a plus rien à voir avec les spectacles qu'on a traités aujourd'hui. Je voulais simplement dire qu'en ce moment, le gouvernement, enfin pas le gouvernement, mais en tout cas les AZEDIC veulent abolir le contrat des intermittents, le statut des intermittents. Et
c'est le MEDEF.
C'est le MEDEF, pardon, voilà. Donc, c'est le MEDEF, oui. Donc, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose rapidement là-dessus ?
Tito.
Si, le problème, c'est que la ministre n'est pas très chaude pour ça, bien entendu. Elle est plutôt du côté des syndicats, mais il paraît que... Il semblerait qu'à l'intérieur du gouvernement, il y aurait des gens qui auraient envie de faire plaisir au MEDEF. Et donc, il faut se battre à nouveau, encore, depuis 10 ans qu'on se bat, il faut recommencer, voilà.
Voilà, là on va recommencer.
Et oui, c'était déjà en 2003 que ça avait...
Et en 2003, on avait créé, Tito et moi, le comité des spectateurs en soutien aux intermittents.
Ouais, alors sur ces bonnes paroles, donc, comme je le disais, Albert Camus, L'étranger, c'est en ce moment au Carré Rondelet, et donc ça se joue ce soir, vendredi, à 20h30, et demain, à 20h30 également, ainsi que dimanche, à 18h. Alors allez le voir, c'est toujours, toujours très très bon de se réimbiber, j'allais dire, c'est peut-être un peu mal choisi, mais se réimbiber d'Albert Camus, donc je vous remercie tous les trois. Et on remercie évidemment Gilles Gouget à la technique de cette émission.
Et puis pour se séparer, moi j'ai choisi encore un Léo Ferré, puisque décidément j'adore Léo Ferré, toujours un Baudelaire, L'étranger. Très bonne semaine théâtrale à tous et à la semaine prochaine.
Homme énigmatique, dis, ton père, ta mère, ta sœur, ou ton frère. Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis, vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers. Déesse immortelle. L'or, je le hais, comme voix ici Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent là-bas. Les merveilleux.